Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Élodie Arnoux. Elle est humoriste, elle est aussi maman, et nous la voyons aussi sur les réseaux, grâce à ses vidéos qui traitent de sujets pourtant sensibles avec beaucoup d'humour, de justesse et d'audace. Bien entendu, il est possible que nous parlions de Darmanin et Cacaboudin, mais surtout du postpartum, de l'allaitement, de l'égalité femme-homme, de la difficulté d'élever un enfant, un petit garçon, quand on est une femme militante, que ce soit sur les sujets féministes, antiracistes ou sur d'autres sujets de société. Nous évoquerons le sujet des réseaux sociaux et même celui des vaccins, un petit peu. Je vous invite donc à découvrir cette personne engagée avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir d'avoir cet échange. Ma première question sera: qu'est-ce que ça fait de devenir mère? Je vous souhaite une très bonne écoute.
Putain, ça se fait, ça, tu subis, hein. moi, j'ai un peu subi, j'étais là. Enfin, c'était voulu non plus, enfin, j'exagère, c'était voulu. Mais le fait de devenir mère, genre vraiment, ce qui se passe une fois que tu as accouché, bah, tu découvres un peu tout, parce que moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros, gros tabou sur le postpartum, sur le rythme du bébé. À la naissance, etc. Donc j'ai tout découvert sur le tard. Après, évidemment, tout ce qui est les bisous, les câlins, ça va très vite, ça on intègre très très vite. Mais oui, tout ce qui arrive derrière, un petit peu aussi la notion de sacrifice que tu peux avoir derrière, oui, on découvre. Et ouais, moi je l'ai un peu dire bon, et ben c'est parti, on va voir ce qui va se passer. Et ouais, chaque jour, on prend un jour après l'autre, et surtout au début, hein, parce que maintenant, franchement, un an et demi, trop cool. Trop cool et c'est trop le bonheur, quoi. Mais vraiment, les deux premiers mois, c'était l'enfer. Hein. Et c'était je deviens maman. Je devrais être méga heureuse. Je devrais avoir un instinct maternel. Il est où, putain? Ouais, non. On se prend une vague, que dis-je, un tsunami dans les dents.
Ouais, mais c'est ça. C'est vrai que ça, c'est vraiment le truc qui revient régulièrement du ben, on se prend cette vague, ce tsunami, on sait pas. Et puis, on nous avait un
Totalement.
Peu vendu du rêve, hein, des fois.
Totalement.
Alors
en fait, le truc, je pense que les gens oublient très très vite, parce que nous, on a par exemple des amis qui ont eu un bébé quelques mois de différence avec nous, et en fait, ils ont super vite oublié, et je pense que c'est genre ton cerveau qui fait un mécanisme de défense, genre c'est vraiment trop bien, et ils ont super vite oublié que c'était vraiment la galère. Moi, les débuts, vraiment, j'étais paniquée entre les poussées de croissance, enfin, parce qu'en plus, moi, j'ai allaité, donc du coup, on subit aussi de plein fouet les trucs comme ça, quand le bébé a vraiment besoin, il y a des poussées de croissance toutes les 3 semaines à peu près. Et donc, il a vraiment besoin de beaucoup, beaucoup manger. Et bah, quand t'es à l'aide, tu dis, mais quand est-ce que ça se finit, ce repas, j'ai sommeil. Et ça dure, ça, pendant une semaine. Et tu dis, mais attends, ça y est, c'est mon enfant, c'est ça maintenant, ma vie. Je vais être qu'une centrale laitière. Et en fait ça passe. Et ça revient 3 semaines plus tard. Et ça, c'est les trucs vraiment que mes amis ont tous oublié de me dire. Il y a aussi les poussées dentaires. Ils ont tous oublié de me dire que c'était sympa pendant une semaine, fièvre, nuit horrible. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi que j'ai découvert sur le tard? Ah oui, la motricité. Mon fils qui faisait parfaitement ses nuits, et dès qu'il commençait à acquérir une notion de motricité, il dormait plus du tout.
Ah ouais?
Oui. Dès qu'il a commencé à se mettre assis, eh ben, il voulait tout le temps être assis, donc il était assis dans son lit, et on le couchait, il se remettait assis. Enfin, c'était un truc, 4 pattes pareil, debout pareil, marcher pareil. Bon bah, tu aimes bien t'exercer, mais arrête, maintenant il faut dormir. Et c'est des trucs que, en fait... Quand j'en ai parlé à une copine, elle m'a dit « Oui, non, mais ça, c'est normal, c'est quand les bébés acquièrent une nouvelle capacité moteur. » Quand il se retournait tout le temps dans son lit, il se mettait sur le ventre, et après, il ne voulait pas dormir sur le ventre, donc il pleurait. Donc, on allait le faire. Oh là là, on arrivait, on le faisait la crêpe et on repartait. Et c'était ça, et rebelote une heure plus tard, quoi. Et ouais, ma amie, elle dit « Oui, c'est à chaque fois qu'ils ont un développement moteur, ils font très mal les nuits pendant 2-3 jours après. » Ah ben d'accord. Et c'est des choses qu'on n'apprend pas, en fait, qu'on ne sait pas.
Ouais, ça, c'est un truc qu'on a noté beaucoup, beaucoup avec tous les parents avec qui je peux échanger.
Ouais.
C'est qu'on te prépare à une médicalisation de l'accouchement, de la grossesse et tout.
Oui.
Mais on ne te prépare pas à être parent, en
pas
fait.
Pas du tout.
Vois.
Pas du tout. Surtout moi, le postpartum m'a vraiment traumatisée. Surtout le côté je découvre. Surtout le côté découverte, en fait. Je pense que j'aurais appréhendé cette période-là comme étant ces 2 mois, parce que moi, ça a vraiment duré 2 mois pile poil. En plus, il y a une nana qui m'a dit oui, c'est deux, 3 mois. Mais au bout de 2 mois, ça va vraiment aller mieux. Et vraiment, au bout de 2 mois, on a commencé à avoir des améliorations et on commençait à sortir de la tête du tunnel, entre guillemets. Mais c'est 2 mois où je me suis dit, où est-ce que je vais? Est-ce que on n'aura pas fait une énorme connerie et ça devient paniquant? Et en fait, si on nous prévient, si on nous prépare un peu mieux, si on nous accompagne un peu mieux, parce qu'il y a la sage-femme qui vient, elle est venue. Nous, en plus, il avait un petit poids, donc elle venait toutes les semaines en disant, oh là là, faut qu'il mange, hein! Donc, la pression au poids, alors que, bah, il mange juste qu'il est petit, moi, je suis petite. Donc, il y a une certaine logique. C'était un peu stressant.
Ouais, ça, s'il y a cette pression en effet du poids, de l'évolution, mais tu vois, on reste surtout sur quelque chose qui est très médical. En
Oui.
plus, quand tu allaites, je sais pas si
Oui.
toi on te l'a fait, mais on ne sait pas combien il prend, à mes machins, à mes
Ah oui,
trucs.
ça,
Ben non, on
à
sait
la
pas.
maternité, on était vraiment. Elles étaient les puéricultrices, hein, elles étaient déjà pas toutes d'accord, pas toutes le même positionnement sur. Comme c'était un petit pot, nous on est resté une semaine à la maternité. Elles n'étaient pas toutes d'accord et elles n'avaient pas tout le même positionnement sur l'allaitement. Donc on avait des conseils, 1 000 conseils différents. Notre pédiatre, qui est le pédiatre de la maternité, lui, il était pro allaitement et du coup, il nous a donné les bons conseils, c'est à volonté et buvez beaucoup d'eau et reposez-vous. Après, c'est facile quand l'enfant ne dort pas, mais voilà, faites au max. Et en fait, en rentrant, on a découvert ces fameuses poussées de croissance parce qu'il y en a une à 6 jours ou 7 jours, quoi. Donc, nous, je crois qu'on est rentré, on s'est dit, oh là là, il y a un problème. Et on a appelé le pédiatre qui nous a dit, je vous fais une ordonnance pour une conseillère en allaitement qui va venir nous voir. Et en fait, la nana, elle est venue nous voir et elle nous a juste rassurés parce que ce qu'on faisait, c'était bien, c'était à la demande. C'était tant pis si le bébé, il va téter 3 heures. C'était à la demande et c'était donc elle nous a expliqué les poussées de croissance, comment ça marchait, mais en fait, grosso modo, elle nous a juste rassuré qu'on faisait bien, quoi. Et ce truc-là, on l'a très très peu. Moi, je sais qu'en préparation d'accouchement, on nous a vraiment pas dit ça. On nous a parlé du lait-no-niche, là, pour des bouts de sein pour l'allaitement, ce qui est très déconseillé d'après la conseillère d'allaitement. Elle nous a parlé des crèmes pour les crevasses, tout ça, mais pas du tout comment ça se passait dans le concret, que ça pouvait durer très longtemps. Ils ne tétaient pas 5 minutes, parce qu'à la maternité, ils disaient 5 minutes un sein, 5 minutes l'autre sein.
Ah oui.
Il y avait aussi mais t'as pas de lait, t'as pas assez de lait, les trucs. Ben oui, je sais pas combien il prend, mais en fait, si l'enfant, ça va, quoi. À un moment, il s'endort comme ça. Il s'endort. En fait, c'est qu'il est repu et qu'il y a pas de. T'as pas de lait, t'as pas assez de lait.
Ça, c'est clair que c'est. Alors, c'est vrai que tu parles d'allaitement et je t'en remercie parce que c'est un sujet, je pense, important de normaliser l'allaitement, justement, en France. Et c'est vrai que pour le coup, tu te rends compte, on a parlé avec Ingrid Bayo dans la saison 1, tu te rends compte qu'en fait, il y a quand même des générations de savoirs qui se sont perdus
Totalement.
et qu'on est en train d'essayer de réacquérir et que finalement, ça pourrait être vachement plus rassurant à une mère de lui dire non, mais juste, t'inquiète pas, ton lait, il est nourrissant, t'en auras suffisamment, fais-toi confiance, voilà, ça va le faire, quoi. C'est en effet un moment important, et surtout dans cette période du postpartum qui est très très sensible, particulièrement pour les mères, faut pas se
Ah,
mentir,
c'est
hein.
sûr.
Et justement, tu parlais de sacrifice, en plus, vous êtes dans un moment où en effet, même si on veut pas être dans une vision sacrificielle de la mère, faut quand même, je pense, être honnête et dire aux mamans clairement, les premiers mois,
Ah oui, les 2 premiers
encore plus
mois,
quand tu allaites.
t'as le temps de faire une douche, t'as le temps de faire caca. Franchement, t'as de la chance sur cette. C'est une bonne journée. C'est vraiment une bonne journée. Donc oui, non, c'est. Moi, clairement, les 2 premiers mois, c'est vraiment. Tu prends. Parce qu'en plus, il y a très peu d'interactions avec le bébé. Vraiment, il est que là à manger et à pleurer. Et puis, tu le berces, quoi. Donc, ça peut être un peu dur de ne pas avoir de retour. À partir de moi, il commence à sourire. Donc, là, déjà, tu es là, ah, comme une dingue. Et tu as un peu de retour. Mais les 2 premiers mois, j'ai trouvé ça très, très dur. Et oui, il faut prendre sur soi. C'est une nouvelle façon de vivre, quoi, de faire.
Et pour le coup, c'est vrai que moi, tu vois, en tant que coparent ou père, en tout cas, il y a les 2 premiers mois, c'est marrant parce que moi, j'avais un petit peu, tu vois, en étant à côté, donc il y avait cette dyade mère-enfant. Et toi aussi, en fait, je vais le dire, enfin, on faut pas se mentir. À un moment, le bébé, bon, moi, je faisais du portage, tu vois,
Oui.
je faisais les bains, le portage et tout, tu vois, j'étais vraiment en contact.
Oui.
Mais concrètement, le bébé, c'est pas drôle.
Ah oui, c'est
Enfin,
sûr. Et c'est drôle,
il
mon
se
père, ça,
passe rien,
vraiment, même la mère,
tu vois.
l'allait est là-bas. Moi, je me
C'est.
faisais chier.
Tu vois.
Enfin, c'est un
Non, mais
peu
c'est
cru,
ça.
mais franchement, les premiers allaitements, t'es là, putain, c'est merveilleux et tout. quand il a 5 mois et qu'il tète pendant, ou je sais pas, quand il peut têter pendant 5 heures, t'es là, bon, je commence vraiment à m'ennuyer là. C'est merveilleux, mais divertissez-moi, j'en peux plus.
Donnez-moi mon téléphone. Ah non, il faut pas d'écran.
Ouais, c'est ça.
Non, mais ça, c'est, et non, et c'est le
pour
truc.
Du coup, moi, je sais que mon concubin a aussi, pour lui aussi, enfin, c'est vraiment pas que les mères, parce que pour lui aussi, c'était très, très dur parce qu'il a fait énormément de portages. Notre fils avait beaucoup de RGO, donc il fallait le tenir sur nous après manger, etc. Il fallait tenir vertical. Fallait le limite qu'il dorme en position verticale, donc c'est lui qui l'endormait, etc. Il était vraiment, vraiment très, très collé à nous. Moi, je pouvais pas, parce qu'il fallait que je me repose pour avoir du lait. Parce que moi, j'avais remarqué un truc, hein, je buvais après une tétée, je buvais un litre d'eau, je faisais une sieste, le lendemain, j'étais là, qui veut un milkshake ? C'était vraiment radical. Donc, il fallait absolument que je fasse des siestes après les tétées. Et donc, il prenait le relais, donc il était autant crevé que moi, parce que la nuit était autant haché que moi, on se relayait, enfin, il était vraiment d'un super soutien, quoi. Vraiment, à part allaiter, il faisait tout le reste, tout ce qu'il pouvait faire, il le faisait, et faut pas non plus minimiser la part des papas. Après, moi, je sais que je l'ai impliqué, je lui ai dit, là, allez, moi, je vais faire une sieste. L'écharpe, tu sais comment la nouer, voici l'enfant, salut.
Non, mais c'est important. Et de ce que je comprends, il a pu rester un moment alors avec vous à la maison.
Alors, par contre, j'aurais pas survécu s'il n'était pas là. Il a pris un mois de congé après l'accouchement. Ouais, il a pris un mois ou deux mois. Je crois qu'il a pris quasiment un mois et demi. Et ensuite, oui, parce que non, il a pris un mois. Il y a eu 2 semaines où il est reparti travailler. Et après, il y avait les vacances de Noël parce qu'il est né fin d'année, mon fils. Donc, il a pris quasiment 2 mois. Il m'a laissé juste 2 semaines où c'était 2 semaines où ça allait plutôt bien, donc où mon fils a commencé un peu à trouver son rythme, à dormir tranquillement, sans problème de reflux, ça allait mieux, etc. Et après, on était à Noël, donc il était avec moi à nouveau tout le temps. Donc, il avait, ouais, sur la période des 2 mois qui sont un peu durs niveau rythme, il a été un mois et demi avec moi et c'était plus que nécessaire.
Ça, c'est un sujet important. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. C'est que entre la non-préparation des pères ou coparents et pour le coup, la politique qui est un petit peu... Enfin, qui reste trop légère en France. Donc, pour rappeler, au 1er juillet 2021, on va passer à 28 jours
enfin,
de congé paternité.
C'est plus que nécessaire, quoi.
Dont 7 jours obligatoires. Mais on reste quand même, mine de rien, tu vois, vachement loin de ce qu'on peut proposer dans d'autres pays. C'est vrai qu'on regarde ce qui se passe ailleurs. Tu vois, tu parles d'allaitement. Si on se fixait sur la recommandation de l'OMS, on devrait pouvoir proposer un allaitement exclusif pendant 6 mois.
Oui.
Si on veut allaiter. Et tu vois, déjà, le congé maternité, il va pas du tout jusque-là.
Bah, c'est ça.
Et pour le coup, le père, en fait, c'est quoi ? C'est en gros, tu te laisses la mère se démerder et on rentre, tu vois, dans des schémas qui sont totalement différents.
Oui, c'est clair qu'ils sont totalement bancals dès le début. J'avais lu une étude qui montrait que dans les pays où les papas avaient autant de congés maternité, genre obligatoires, que la maman, je crois que c'est dans les pays nordiques, hein, où ils sont vachement d'avance, les réductions de salaire, les différences de salaire sont beaucoup plus fines et je crois quasiment inexistantes. Donc ça montre bien que la maternité sur la carrière de la femme est un impact considérable parce qu'à partir du moment où on considère que la nana va faire tout le rôle maternel et que le papa va pouvoir continuer à vivre sa vie et même plus qu'il y en a qui... Je sais qu'il y a même des boîtes qui disent qu'il faut... augmenter les papas, leur donner plus de responsabilités dans leur carrière parce que maintenant ce sont des pères de famille responsables et qui doivent faire bouillir la manite pour la famille. Non, c'est pas ça, c'est que allégez-le parce qu'il a du taf à la maison.
Non mais c'est exactement ça en fait. Les chiffres montrent que en effet la maternité va venir impacter négativement la carrière d'une femme. Alors qu'elle va impacter positivement la carrière d'un homme, parce que justement, on va le voir comme quelqu'un qui est en prise de responsabilité, mais on ne va pas se dire, tiens, c'est marrant, il y a un enfant qui est arrivé à la maison, donc il y a forcément une charge au foyer qui augmente, il devrait peut-être s'en occuper.
C'est clair.
Mais non, il a une femme pour ça.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est alors que la nana, ça va être, elle va partir à 4 heures pour aller chercher ses gosses, on ne peut plus compter sur elle à partir de maintenant. Et c'est vraiment dommage de penser ça et de pas voir, comme tu dis, une coparentalité et de voir plutôt une répartition un peu archaïque des tâches, quoi. Surtout, tu vois, la différence que ça fait quand... Après, je comprends un peu les patrons qui disent, putain, mon personnel, mais quand c'est une nana qui va annoncer qu'elle va avoir un enfant et quand c'est un mec, l'ambiance, rien que l'ambiance qu'ils ont chacun pour le dire à leur patron, c'est pas la même. C'est pas la même. Nana va toujours être un peu en angoisse, va dire ben désolé, un peu désolé quoi. Alors que un mec, il va t'annoncer ça comme si ouais voilà, je vais avoir un enfant, bah c'est cool Patrick. Et sinon pour la réunion, enfin aucun. Après je comprends, les patrons ils doivent aussi gérer leur personnel et se dire ah bon faut trouver un remplacement pendant tant de mois, mais c'est, je trouve ça profondément injuste.
Mais tu vois, c'est non mais tu poses une réflexion que j'ai creusée un peu et qui m'intéresse particulièrement parce que moi si tu veux par exemple, moi j'ai pris un congé parental, pas hyper gros et c'est pas, enfin j'étais là 3 mois quand même avec ma femme et ma fille. Et c'est vrai que, pour le coup, quand mon directeur, moi je travaillais, on va aller dire à la FNAC, quand mon directeur m'a dit « Ok, super, mais comment ça va se passer ?» Je lui ai dit « Écoute, moi je veux, comme c'était l'été, moi je lui avais dit que je voulais avoir mes congés d'été, en suivant mon congé paternité, et ensuite prendre un congé parental. »
Il a halluciné.
Alors déjà,
il a dû dire
là,
quoi
toi en tant que... Ben c'est ça. En plus, t'es cadre, tu vois, moi j'étais cadre. Donc on te dit... alors non, moi mon directeur il était cool si tu veux, donc il a bien compris. Par contre c'est vrai que même niveau, c'est niveau RH en fait qui se sont dit mais qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu veux t'en aller pendant 3 mois, et puis je te rappelle que t'es 4, t'as des responsabilités. Ben oui justement, moi en plus je répondais tranquillement, ben oui je pense que c'est important de montrer que quand on est père, quand on devient père, on peut prendre du temps avec sa famille. C'est justement ça l'exemplarité. Donc il y avait, si tu veux, il y avait ce côté là et dans les débats sur le congé paternité, puisque je faisais partie d'une tribune signée en 2020 par plein de papas. Justement, le débat sur dans l'entreprise, pour moi, c'est que les patrons comprennent que, franchement, enfin moi qui étais en situation d'embaucheur, si tu veux, et de trouver des gens à remplacer, ben, c'est un peu con de se dire, alors on a Jean-Michel qui va partir pendant 14 jours, 28 jours, et on va pas le remplacer. Alors soit on le remplace pas, soit et on va en chier, soit si on le remplace, et ben on va avoir quelqu'un qui est pas monté en compétences. Franchement, il vaut mieux qu'il se barre un bon coup 3 mois. Que t'aies le temps de former quelqu'un, que t'en chies un peu pendant 2 semaines, tu vois, et qu'ensuite, t'es quelqu'un de productif pour les 2 mois et demi restants, tu vois, en fait. Et ce calcul-là, je comprends pas. Et c'était intéressant parce que ça, c'est une position qui a été défendue par les patrons, justement, pendant les débats. Qui ont dit soit on y va à fond, soit on y va pas, quoi.
C'est clair, mais c'est clair. Et je sais pas, il y a une espèce de statu quo où il y a aussi, moi aussi, quand j'étais plus jeune, quand je travaillais dans mon ancienne boîte, j'avais des papas qui étaient impliqués et qui se barraient ou qui disaient je vais récupérer mon fils à la crèche, à la maternelle, etc. Et il y avait une espèce de boys club qui disait, tous les autres mecs disaient ta femme, elle peut pas. C'est ça qui est hallucinant, il y a encore tellement de choses ancrées dans les mentalités, c'est dur quoi.
Non mais de toute façon là, petit aparté sur le milieu professionnel, mais moi tu vois par exemple, je me rappelle de remarques débiles genre, tu vois des fois j'arrivais avec une chemise qui n'était pas repassée top, tu vois, parce que moi je la repassais, tu vois je repasse pas au fur et à mesure, je la repassais le matin à l'arrache, la tête dans le cul comme beaucoup de gens.
Moi je la repasse, je secoue d'un coup sec
mais
et
ça,
c'est repassé.
Mais tu vois voilà, et... Une fois, je me suis pris une remarque comme ça, et mon directeur de l'époque m'a tout simplement dit « Mais tu peux pas dire à ta femme de repasser tes chemises correctement ?»
Mais ça, c'est, et lui, pour lui, c'est totalement normal. C'est juste que c'est des époques et des façons de penser qui sont totalement différentes. Il y a vraiment un gap de façon de penser entre... Le problème, c'est que ces personnes-là sont encore à la tête des entités, quoi. Elles sont encore directeurs, machin. Donc, c'est compliqué. Il pense... Lui, pour lui, c'est normal. C'est sa femme, elle a un petit travail pour s'occuper, mais vraiment pas pour ambition, pour s'accomplir elle-même. Non, c'est qu'elle s'ennuie à la maison. Elle a fait du scrapbooking pendant une semaine, mais bon, là, maintenant, elle est... Enfin, tu vois, vraiment, il estime pas du tout que sa femme, elle a un autre rôle profond que de s'occuper de lui. Et pour lui vraiment c'est je pense que c'est tellement ancré et c'est compliqué quoi. Et tant que ces personnes-là, moi je me rappelle donc moi j'ai été élevée dans une famille un peu matriarcale, enfin totalement matriarcale, quand je vois le fonctionnement de mon père et de ma mère et de la famille de ma mère très très girl power et c'est des girl boss quoi, c'est vraiment ça. J'ai une tata qui est ministre à Madagascar, voilà, très très des femmes fortes quoi. Et du coup, pour moi, j'ai grandi jusqu'à l'école d'ingé, j'ai commencé à avoir, mais jusqu'à la fin du lycée, vraiment, tous les trucs de sexisme, etc., ça me passait à des kilomètres, parce que pour moi, c'était vraiment égalitaire. Et à l'école d'ingé, j'ai eu quelques profs un peu douteux qui disaient les filles, vraiment, j'en ai un qui avait marqué, qui m'a dit les filles, vous savez comment ça marche un moteur? Ben oui, on a eu le cours hier. Enfin, à quoi ça sert de dire ces trucs-là? Vraiment, j'ai pas compris, surtout que c'était lui qui nous avait le cours, tu sais. Ben oui.
En fait, si on sait pas, c'est que t'es nul.
Ouais, non, mais oui, exactement, en plus. Exactement. Et le truc, c'est que non, le mec était profondément macho et à se dire, les filles, on a parlé de moteur hier, mais elles ont rien dû écouter, elles devaient penser à leur vernis. Et quand j'ai commencé à travailler et que j'ai été confrontée à des mecs qui avaient 50 ans, parce que, ouais, non, 50, 60 ans quasiment. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a beaucoup de racisme ordinaire, beaucoup de sexisme ordinaire, c'est l'enfer. Moi, mon chef était dramatique, quoi. Il me sortait des phrases comme, ah, je suis malgache, et il me disait, ah, bah, toi, t'aimes bien, il m'avait sorti ça, toi, t'aimes bien Bob Marley de toute façon. Bah non, le reggae, je déteste ça. Enfin, et pourquoi il me dit ça à moi? Donc, il y avait des phrases comme ça, il y avait des phrases très sexistes, il y avait un fonctionnement, donc j'étais ingénieure, donc un métier où il y avait beaucoup d'hommes et effectivement ta femme elle peut pas trop passer ta chemise, ta femme elle fait à bouffer, elle a préparé, quand il y avait un apéro qu'on a ramené une quiche, ah, ta femme tu lui diras à ta femme merci pour la quiche et ça va, il sait faire une quiche, même moi je sais faire une quiche. Enfin, c'était tellement les mecs avaient des trucs tellement ancrés et puis en plus les milieux d'ingénieurs c'est aussi très boys club quoi, il y a beaucoup de garçons qui se tapent sur l'épaule, ha ha ha, on est des mecs, on a des énormes couilles. Enfin, c'était très. Ouais, un peu masculinité toxique, quoi. Où je me dis derrière, dedans, s'il y en a un dedans qui est gay, qui ose pas le dire, l'enfer pour lui, quoi. Parce que les nanas, en plus, ils adoraient énerver les féministes pour qu'on était trois filles. Des trois filles dans tout le service, trois filles ingénieures, du coup. Et ils adoraient nous énerver et voir la répartie qu'on pouvait avoir, quoi. Donc, c'était, j'ai découvert, moi, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, donc on est vraiment encore dans un monde que moi, je découvrais ce truc-là, j'étais atterrée, je me disais, oh mon Dieu, c'est possible. Et en plus, ce sont les mecs qui dirigent, quoi. Ce sont les décideurs qui pensent comme ça. C'est ça le plus effrayant.
Et au niveau de après, une fois que le bébé est là, comment ça se passe? Parce que j'ai cette phrase de toi dans un sketch où tu parles de ton fils qui ressemble à un tacos.
Là, parce que je faisais que de, tu sais, de l'emmailloter pour qu'il dorme. Et donc, je me suis dit, je fais des tacos. Je reprends les travaux étudiants parce que j'étais à Lyon. Et du coup, à Lyon, les tacos, ça se fait, c'est un espèce de sandwich qu'on mange et qu'on emmaillote comme un bébé, quoi. Et donc, j'ai dit ça, mais je trouvais ça drôle et je pensais pas que les gens aient noté cette phrase.
Ah, c'est resté. Ouais. Et est-ce que après, pour le coup, est-ce que tu as eu des remarques, des éléments, des comportements un peu différents par rapport à une différence de couleur de peau entre toi et ton enfant? Est-ce que c'est des choses que tu as rencontrées?
Moi, c'est vrai que mon fils est blanc. Mon fils est de couleur de peau, il est blanc, quoi. Donc, il n'aura aucun problème dans la vie. C'est un homme blanc. Super. Je suis soulagée.
Donc, il n'y a plus qu'il soit hétéro.
Ouais. Par contre, moi, en tant que féministe et antiraciste, je suis dégoûtée. Je suis au service d'un petit blanc. Super, j'ai tout raté. Non, après, non. Alors, moi, ce que j'ai eu, c'est qu'on souvent, on pensait que j'étais la nounou. Déjà que je suis jeune. En plus, je suis racisée, mon fils est blanc. Bah, il est métis, hein, mais vraiment, il est très, très. Il a attrapé des coups de soleil cet été, il a la couleur de peau de son père, quoi. Et du coup, hein, on a souvent pensé que. En plus, il ressemble surtout à concubin, il n'y a que mes yeux un peu. Et du coup, on a souvent pensé que j'étais la nounou. Mais c'est pas rare de voir, quand tu vois une femme racisée au parc, de se dire c'est une nounou. Ça, c'est un réflexe que j'ai remarqué avec d'autres mamans quand je me baladais. Avec des copines, etc., machin. Des fois, tu peux avoir des remarques de « Ah, t'as vu la nounou ?» Et je dis « Mais ça se trouve, c'est son fils. Pourquoi tu penses automatiquement que c'est une nounou ?» Qu'est-ce que quand tu vois une maman blanche, enfin, quand tu vois une femme blanche avec une poussette et deux enfants à côté, qui sont de... Est-ce que tu vas penser que c'est la nounou ou... Donc, c'est un truc, c'est un peu des réflexes aussi qu'on a par rapport à ça. Et moi, je sais que j'ai eu quelques fois la réflexion, mais c'est quand même assez rare. Mais j'ai eu, ouais, je l'ai eu. Et puis non, surtout, moi, mon défi que je me dis pour, en tant qu'en plus, du coup, femme racisée, c'est j'espère que mon fils ne sera pas un connard. C'est vraiment mon truc d'éducation, c'est de dire, putain, j'espère qu'il comprendra les femmes, qu'il ne sera pas sexiste, qu'il ne sera pas un agresseur. C'est vraiment ma pression et je me dis, putain, il faut que. Enfin, c'est ouais, c'est mon truc. C'est le truc où je me dis, faut pas que je me manque. Autant une fille, tu sais qu'il faut lui, ce qu'il faut lui dire, faut pas te laisser faire, etc., etc. Autant un garçon, on explique moins. Déjà, moi, j'avais identifié de lui dire que tout ce qui est féminin n'est pas forcément dégradant. Par exemple, tu vois, on lui avait donné une poupée et je sais plus qui, mais je me rappelle plus qui lui avait dit, ah non, pas une poupée, c'est un garçon. Bah si, une poupée, pourquoi pas une poupée, c'est un garçon. Bien sûr qu'il peut jouer à ça, bien sûr qu'il peut faire de la danse, bien sûr qu'il peut jouer à la coiffeuse. C'est pas dégradant parce que c'est associé à des choses féminines, quoi. Donc ça, je pense, c'est un point important. Mais les autres, je t'avoue que je suis encore en réflexion et c'est un truc qui m'angoisse. Je voulais faire une vidéo là-dessus, mais je me suis dit, en fait, je sais, j'ai pas la réponse. J'ai pas du tout la réponse, je sais pas.
En fait, personne ne sait faire. Il y a Benoît de Groult qui disait on arrive à éduquer nos filles comme nos garçons, mais pas encore, mais on n'a pas encore le courage de faire l'inverse.
Oui, c'est clair.
Et en fait, si tu veux, le truc, c'est que dans cette phrase, pour moi, il y a deux éléments qui m'interpellent. C'est dans un premier temps de se dire, est-ce qu'on veut vraiment éduquer nos filles comme nos garçons? C'est-à-dire,
Ah
est-ce qu'on
non.
veut des filles qui connaissent la compétition, la domination, tu vois? Et ensuite, en effet, par contre, on n'a pas encore le courage de dire à un petit garçon que ben,
Il
c'est
peut
OK de jouer à la
pleurer,
poupée.
ouais.
Tu vois, et qui peut pleurer, et que émotionnellement, alors moi, tu vois, qui ai été éduqué dans la pure tradition française du mec de base, clairement, émotionnellement, j'étais un désastre pendant des années et des années,
Ouais.
et j'aimerais bien que les petits garçons n'aient pas à se taper des thérapies à rallonge plus tard.
C'est clair.
Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là où on se dit, au lieu de regarder s'ils jouent à la poupée parce que c'est fille ou garçon, y a une astuce qui consiste à se dire qu'est-ce qui travaille, qu'est-ce qu'il développe? En fait, un garçon qui joue à la poupée, tout comme une fille, il fait comme il voit ses parents faire, c'est-à-dire du maternage, ou du parentage pour ceux qui veulent vraiment des mots égalitaires, maternage proximal, et en fait, il apprend juste à prendre soin
Oui,
de
voilà.
quelqu'un. Et en fait, si on commence à raisonner comme ça, on s'ouvre un petit peu plus le champ des possibles sur ce qu'on peut voir ou pas voir. Mais la grosse difficulté, c'est qu'en fait, on ne sait pas faire. Tu vois, moi j'ai une fille, toi tu as une fille, toi tu as un fils, moi j'ai une fille. Moi j'ai une fille, c'est vrai que je t'avoue que le premier truc que je me suis dit, c'est...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bon, ben ma fille, elle apprendra à se défendre, elle apprendra le consentement, elle apprendra machin, elle
Exactement, ouais.
apprendra ceci, cela. Et en fait, un garçon, alors il y a des ouvrages intéressants là-dessus, hein, Tu seras un homme féministe, mon fils, d'Aurélia Blanc, qui est une pépite. Il y a d'autres livres de Pilaetica et Elisa Régoulé, Fille, garçon, même éducation, enfin voilà. Maintenant, il y a plein de livres qui existent. Moi, je suis arrivé à un constat, c'est que on ne sait pas faire.
Ouais.
Personne ne sait faire. Ça n'existe pas. Donc, c'est le grand challenge d'ailleurs de notre génération si on veut que les choses changent. C'est comment est-ce qu'on fait pour que ça évolue? Alors, bien sûr, il y a des choses qu'on a réussi à comprendre. Tu vois, sur le consentement, par exemple. A priori, si on veut qu'un petit garçon grandisse en respectant le consentement des autres, eh ben il faut respecter le sien en fait.
Exactement.
Tu vois, et ça c'est des trucs, mais même ça, c'est des mécanismes auxquels on ne pense pas parce que quand tu penses petit garçon, tu penses qu'il faut le calmer, tu penses qu'il faut le dresser, tu penses qu'il faut le canaliser, tu vois. Et ça c'est des sujets, il faut vraiment les
Ouais,
creuser
c'est
quoi.
clair, c'est clair. Moi, je sais par exemple que le consentement de mon fils, je lui ai fait tellement de bisous forcés, mais le pauvre, mais vraiment, c'est un truc. Et ça, je n'arrive pas à m'en empêcher. Il rentre de la crèche, je l'attrape et je lui fais un milliard de bisous. Et lui, je vois des fois qu'il en a marre, qu'il fait non. Et c'est un truc, j'arrive pas. Et je me dis, putain, pour ce truc-là, il faut vraiment que je me contrôle, quoi. Que je lui explique s'il a pas envie, maman devrait respecter.
Ah mais tu sais que, alors, nous, tu vois, pareil, je sais que moi, ça choque les gens, ça choque beaucoup les gens quand je demande à ma fille si je peux lui faire un bisou.
Par contre, ça
Je
devrait pas
sais que
choquer les gens.
ça
Par
choque.
contre,
Ah, moi, ça les choque. Moi la plus. Enfin, maintenant, l'entourage proche s'est quand même habitué. Voilà. Je dois sûrement passer pour le taré de base, mais c'est pas grave. Mais en fait, c'est vrai qu'au début, ça choque. Mais après, voilà, je pense que tu vois, faut pas non plus. Là, je veux juste dire aux parents qui pourraient nous écouter, faut pas non plus mettre la pression. Oui, ma fille, des fois, je la prends dans les bras, je lui pose un bisou sur la tête et je lui ai pas demandé avant. Ça
Oui,
va.
ouais.
Ça va, ça va. Je ne me flagelle pas pour autant, et j'ose espérer que ça ne changera pas son rapport au consentement. En tout cas, ce qu'elle constate, c'est que personne ne peut lui faire de bisous sans lui demander avant. Et tu sais que ce soit... et ça, c'est quelque chose... Pareil, je reviens un petit peu sur l'aspect un peu racisé, parce que ce soit ma compagne ou d'autres amis, tu vois, au-delà du bisou, il y a aussi le coup des cheveux, quoi.
Ah oui, oui, moi, tellement, oui.
Tu vois, le coup de « Ah, oh, t'as les cheveux crépus, oh, t'as les cheveux machin, oh, je vais les toucher. » Tu vois, les gens dans les supermarchés qui viennent toucher les cheveux de ton gamin, quoi.
C'est impossible. Là, ça peut partir en bagarre générale très rapidement avec moi. Déjà que moi, ça m'insupporte alors qu'on le fasse... mon fils a les cheveux lisses comme de la soie, donc il attire... Vraiment, c'est un petit blanc. J'ai enfoncé d'un petit blanc, écoute, tant pis. mais oui, j'imagine ta fille a les cheveux frisés et que du coup, les gens veulent toucher absolument insupportable.
Elle a en toute humilité, elle a des boucles magnifiques et incroyables. Voilà, minimum. Et c'est vrai, non mais c'est vrai que c'est joli, si tu veux, mais à un moment, tu vas pas toucher les cheveux de quelqu'un d'autre.
Juste, on touche pas le corps des gens qu'on ne connaît pas.
Exactement. Enfin... Et encore plus sans leur demander leur avis, tu vois. Enfin,
ouais.
Tu vois, t'es pas dans un vestiaire en train de faire des chabites. Ça, c'est pour les mecs qui nous écoutent. Enfin, tu vois, c'est pas, il y a pas une espèce de règle tacite comme ça de, on peut s'en occuper. Mais c'est intéressant aussi parce que si tu veux, moi, je fais souvent le parallèle entre le fait que, comment dire, si tu veux, ces espèces de libertés qu'on prend avec les enfants,
ouais,
ce sont des libertés qu'on retrouve ensuite plus grand.
Eh ben oui.
Bien entendu, on a changé le système de domination, c'est plus adulte-enfant, c'est homme-femme régulièrement, mais en fait, pour moi, c'est la même cause, tu veux, c'est la même source.
Ah oui, c'est sûr. Ah, c'est des choses qui sont ancrées, hein. C'est des comportements qui sont ancrés. La dernière fois, enfin, je te parle de hier, là, j'ai vu PPDA sur Quotidien. J'étais déçue de Quotidien, je peux te le dire.
Ouais.
Mais, j'ai vu PPDA qui est donc accusé de viol et qui dit on est dans une génération où c'est, on peut même plus, on est dans une génération qui n'accepte plus qu'on fasse des bisous dans le cou. Mais j'ai, mais où, quoi? Mais heureusement qu'on est, tu sais, le mec, et lui, c'était une phrase de défense pour dire je suis pas un agresseur, je suis pas un harceleur. Bah si, là tu viens de dire que pour toi c'est normal de faire un bisou dans le cou et que t'as dû le faire et qu'on a dû te renvoyer dans tes 22 et que ça t'a un petit peu chafouiné. Bah si, en fait, et pour lui c'était totalement normal. C'est totalement normal de faire ça. Donc c'est quelque chose qui est ancré profondément en lui, il voit même pas le mal, quoi.
Mais c'est ça, mais en fait c'est totalement ça, c'est que ce sont des gens qui ont grandi dans des câblages, et malheureusement, hein, que c'est... il n'y a pas que cette génération, hein. Moi j'ai des amis de mon âge.
Ah oui.
Qui sont totalement dans cette optique-là, hein. Mais parce que ça se transmet. Hein.
Oui, ouais, c'est clair. Mais je pensais que quand même, comme on entend parler, alors tu peux ne pas être d'accord, tu peux râler, mais quand même t'en entends parler, tu entends le truc de le consentement, tu en as entendu parler, tu te rends compte, tu te renseignes un peu, et puis peut-être que tu mets une graine qui va faire son chemin, etc. Je pensais pas qu'il y avait encore des gens de notre génération qui pouvaient être... Mais oui, bien sûr qu'il y a des trucs qui se transmettent.
Si. Ah si, ça se transmet. Et en plus, tu veux, parlons un peu de rhétorique, les éléments de com' utilisés sont super intéressants. C'est que tu vois, tu parlais de PPDA, donc qui est passé, au moment où on enregistre, qui est passé chez Quotidien juste avant, concernant ces accusations pour viol. En fait, tu vois, quand il dit « on ne peut plus faire un bisou dans le cou », si tu peux, tu ne peux pas le faire sans le consentement.
Exactement.
De la personne. En fait, c'est ça le truc. Donc c'est pas et en plus tu inverses le sujet, c'est-à-dire qu'encore une fois, si tu veux, la charge, le sujet, c'est pas l'homme là en l'occurrence. Pour moi, si tu veux, la bonne façon de tourner la phrase, c'est pas de dire on ne peut plus faire de bisous dans le cou. Ce qu'on peut dire, c'est les femmes ont le droit qu'on respecte leur volonté de recevoir un bisou.
Exactement.
Dans le cou ou pas. C'est ça qu'il
oui.
faut dire, en fait, tu vois. En fait, faut inverser le sujet. C'est pas, faut pas avoir une version homme blanc centré, mais une version plutôt de la personne qui subit,
c'est clair.
En l'occurrence, l'action, quoi. Donc voilà. Et après, c'est vrai que ça, c'est une question qu'on peut se poser, surtout que bon, toi, t'es engagé sur plein de sujets, quoi. Donc féministe, racisme. Je sais que t'as une passion pour Gérald Darmanin.
Il nous entend.
Gérald, si tu nous entends, nous te faisons rien, en fait, parce
oui,
que,
vraiment, n'hésite pas à disparaître.
Voilà,
démissionner.
Darmanin démission, voilà, comme ça on l'a dit. Et puis peut-être un petit Darmanin cacaboudin pour.
Cacaboudin, évidemment.
Pour passer.
J'ai oublié de mettre le filtre aujourd'hui, il faut que je le mette, sinon les gens risquent d'oublier.
Et voilà, mais c'est vrai que c'est comment est-ce que on peut concilier nos aspirations militantes avec l'éducation qu'on veut transmettre à nos enfants, quoi.
C'est ça, c'est exactement le défi que j'ai. Et en plus, d'autant plus que voilà, mon fils, aux yeux de la société, il sera évidemment éduqué dans les traditions un peu malgaches, et il sera un petit peu malgache, mais aux yeux de la société, un mec qui va le croiser dans la rue, il va dire c'est un mec blanc. Il est brun, il a les yeux noirs, il a blanc de peau. C'est un mec blanc, quoi. Donc, il faut qu'il ne soit pas un oppresseur. Et de sa maman. Et c'est déjà le cas. Non, mais voilà, il faut pas qu'il soit un oppresseur des gens comme sa maman, quoi. Donc ça va être c'est tout le défi de mon éducation, et j'espère bien faire, mais putain, c'est dur, hein. Enfin, et surtout, je me pose des questions à chaque fois, quoi.
Ça, c'est chaud. Ça, je trouve, tu vois, que ça, c'est un point vraiment que je trouve extrêmement complexe, c'est qu'à partir du moment où tu analyses un peu ce qui se passe, que ce soit sexisme, racisme ou quoi, mais où t'as cette vision-là, tu te poses plein de questions tout le temps.
Oui, c'est sûr. Moi, je sais que dans la génération de mes cousins, moi, je suis au milieu à peu près, hein, donc j'ai des petits cousins plus jeunes et des grands cousins beaucoup plus vieux. S'ils écoutent le podcast, ils vont me tuer. Plus vieux. Et on est une famille très, très métissée, donc on a vraiment toutes les teintes Sephora dans les couleurs de peau, quoi. Donc ça passe de beige à très foncé. Et je sais que j'ai déjà vu mes cousins plus vieux avoir des discussions avec leurs enfants. Pourquoi ton cousin il est noir, et pourquoi toi t'es marron, et pourquoi l'autre cousin il est blanc, etc. Donc je me dis, comment je vais gérer cette question? Je sais pas. Je sais pas. Moi aussi, je vais lui dire, bah, t'es malgache, hein, calme-toi. Et puis ça fait pas tout, hein.
Alors
Non, par contre.
malheureusement, moi j'ai pas de réponse toute
Ah
faite
non, non, oui.
là-dessus.
Je sais que ça va arriver. Alors, je me dis, allez, il a 1 an et demi, peut-être dans 2, 3 ans, 3 ans peut-être, il commencera à poser ces questions-là. Même pas. Je crois qu'il y a un âge à partir duquel l'enfant voit les couleurs, il voit pas les couleurs au début.
Alors moi, de ce que j'ai noté, appris, lu et vu, bon, je l'ai pas vécu fatalement parce que moi je suis un bon gros coton-tige. c'est que alors ça arrive généralement quand ils sont confrontés à l'école,
Ok.
par exemple. Il y a beaucoup de personnes racisées qui m'ont dit moi j'ai appris que j'étais noir quand je suis arrivé à l'école. Voilà, parce qu'on leur a dit tu es noir en
Ok.
fait. Parce que si tu veux.
C'est quelque chose qu'on ramène des parents, tu crois que c'est quelque chose qui ramène des parents?
C'est quelque chose qu'on ramène de la culture, c'est quelque chose qu'on ramène des parents, c'est quelque chose qu'on ramène de l'environnement. Mais l'enfant en lui-même, alors on en parle avec André Stern dans l'épisode 13, le premier épisode de la saison 2. L'enfant, lui, de base, si tu veux, il ne voit que diversité de toute
Oui,
façon, en fait.
exactement. Ça me fait penser.
Il les voit, les couleurs. Il ne voit que diversité. Ça, c'est quelque chose qui est. L'enfant ne pense pas en termes de groupe social, d'homogénéisation de la société, si tu veux. Il pense pas comme ça. Pour lui, tout n'est que diversité.
Et oui, on est tous différents, évidemment.
Exactement. Et justement, il compose, il découvre avec ça. Et c'est comment est-ce que derrière, on lui met dedans, dans sa tête, des concepts. Là, je sens que ça travaille, là.
Ça travaille, et en plus, ça me rappelle, j'ai acheté un livre, là, l'imagier du corps humain, ou je sais pas quoi, à mon fils, parce qu'en ce moment, il apprend les mains, les pieds, le nez, etc. Et dedans, il y a une page, j'en ai parlé dans une story, dedans, il y a une page où il y a des enfants au parc, il y a un noir, et il y en a une qui est un peu marron clair, mais franchement, c'est pas net. Il y en a qui disent c'est une Asiate, il y en a qui disent qu'elle est un peu plus foncée, etc. Et il y a 3 enfants blancs, et du coup, ils disent, la phrase sur le livre, c'est qui s'amuse au parc? Et il y a écrit des enfants très différents. Très différents? Mais quand tu regardes grosso modo le truc, tu vois qu'il y a en gros 4 blancs et un noir, quoi. Et du coup, le très différent m'a gêné. Cette phrase m'a gêné, je sais pas pourquoi. Et j'en parlais avec la commu. J'en parlais en story, du coup. Je lui ai dit, cette phrase me gêne, mais je sais pas pourquoi. Et effectivement, c'est que bah, c'est très différent. On sent que ça vise un enfant en particulier, puis qui était vraiment très, très noir. En plus, il lui avait fait les lèvres roses. Enfin, ridicule. Vraiment le cliché. Enfin, ça m'avait gêné. Et il y avait une instite qui m'avait répondu en message privé, qui m'avait dit qu'en fait, ils utilisaient ces images-là pour dire. Pour contrebalancer les discours racistes qu'il pouvait y avoir à la maison. Donc, elle utilisait ce livre-là aussi. Et en fait, moi, c'était le trait différent. Je lui disais que moi, c'est le trait différent qui m'avait gêné. C'était parce qu'il y aurait écrit des enfants tous différents. ça m'aurait pas gêné. Il y aurait eu des enfants différents, ça m'aurait pas gêné. Mais le très différent, tu sens qu'il y a quelque chose, il y a une couille dans le potage, et puis t'as vraiment, tu sais, tous les petits enfants blancs, allez, une qui est un peu blanc foncé, et vraiment, t'as le fils noir dedans. Et en fait, là, j'ai fait un sondage pour voir si ça gênait que moi, et ça gênait, je crois que c'était, la proportion, c'est 70% étaient gênés, et 30% n'étaient pas gênés par rapport à ce truc-là. Donc ouais, c'est vrai que c'est un sujet vraiment qui trotte dans ma tête, qui me fait réfléchir. Pour que j'ai pas envie que mon fils il aille voir quelqu'un noir en disant « toi t'es noir !» Et sans explication, sans truc comme ça, parce qu'évidemment moi c'est des choses que j'ai vécues petites quoi.
Mais après c'est ça, après mais tu vois moi par exemple, ma fille, comme tous les enfants, elle a aucun problème à dire « la dame elle est vieille, le monsieur il est vieux, le monsieur il a les cheveux gris, le monsieur il est noir », voilà. C'est pas un problème en fait, mais c'est justement ça en fait le sujet. C'est chez eux c'est spontané et eux en fait tu vois, ils le disent parce qu'ils voient une peau noire, ils disent pas il est noir. Alors attention, je vais utiliser je vais rentrer dans la peau des clichés hein. Ils disent pas il est noir, ah ben donc il est feignant, ah ben donc il est machin, ah ben donc il est truc, tu vois, c'est pas du tout ça qu'ils disent les enfants, et c'est comment est-ce que nous on vient l'interpréter derrière, et c'est là où c'est super intéressant de se questionner là-dessus, parce que c'est à ça que ça nous renvoie quoi. Mais c'est vrai que tu te dis, entre les histoires de sexisme, de racisme et tout, c'est une vraie difficulté quand tu es engagé, militant, de réussir à mettre ça dans l'éducation. Quoi. C'est un vrai sujet. Quoi.
Complètement, et j'ai absolument pas les réponses. Il n'y aura pas de conclusion à ce thème.
Non, mais c'est intéressant. Je suis quand même ravi justement qu'on soit tous à se dire que... Bah, on veut que ça avance, on veut faire bouger les choses, mais qu'on reconnaisse qu'en effet, on ne sait pas faire, et que comme on ne sait pas faire et que personne ne sait le faire, ben on va faire de notre mieux et qu'on va faire de notre mieux et que ça sera déjà très bien.
Ouais.
Et ça enlève aussi une pression, tu vois, je trouve.
Oui, c'est sûr.
C'est bon, quoi, tu vois.
C'est sûr. Enfin, après, non plus, il ne faut pas non plus... Moi aussi, un truc que dans la parentalité, que j'ai mal vécu. Après, moi, ça me glisse un peu dessus, mais... que des fois je trouvais un peu lourd, c'est c'est la pression qu'on peut se mettre, le jugement, quoi qu'il arrive, on va foirer. On va dire là-dessus, quoi qu'il arrive, on va se foirer, on sera pas parfait, donc faut pas se mettre une pression incroyable, mon enfant, faut absolument qu'il ait toutes les motricités, qu'il ait tout coché, tous les trucs, etc., qu'il ait l'allaitement exclusif pendant 8 ans, enfin... Non, tu fais comme tu peux. Moi, j'ai arrêté au bout de 5 mois. J'ai pas tenu les 6 mois. J'ai arrêté au bout de 5 mois parce que je reprenais le travail. Ça devenait invivable. C'était, ben, le petit était au biberon et c'est pas grave. Ma sœur, je sais que pour des raisons médicales, elle n'a pas pu allaiter. Et ben putain, elle a eu sorbi un torrent de pression. Mais tu devrais essayer. Ben, elle a perdu 20 kilos pendant sa grossesse. Elle a fait en hyperémèse. Elle avait aucune force. Bien sûr qu'elle n'avait pas de lait et qu'elle pouvait pas allaiter. C'était son médecin qui lui avait dit n'allaitez pas. Vous allez parce que elle a vraiment vraiment une grossesse horrible. Je raconte sa life un peu. Et à un moment, on lui disait qu'elle était en danger quoi. Donc non, elle n'a pas pu allaiter médicalement. C'est sous le l'avis de son. Et en fait, on lui a quand même dit oh essaye d'allaiter. Oh, tu devrais penser à ton fils. Bah oui, mais elle va caner. Donc peut-être son fils serait plus heureux avec un bib et sa mère que pas sa mère. Quoi.
Non mais ça, je te rejoins. Tu vois, j'ai beau prôner la normalisation de l'allaitement maternel. Juste une chose, je reste quand même persuadé que ce dont les enfants ont besoin, ce sont des parents qui vont bien.
Exactement. Ah, je suis totalement d'accord.
Tu vois.
Je suis totalement d'accord.
Donc,
parce que et je trouve que des fois il y a des injonctions, surtout après sur les réseaux sociaux parfois malheureusement, mais il y a des espèces de pressions qu'on peut te faire sur faut être parfait, faut pas se louper. Moi des fois mon fils, je lui crie dessus. Oui. Surtout quand il va se faire mal, parce qu'il a un truc en ce moment, c'est quand il est pas d'accord, il se jette en arrière et. Et moi, comme j'ai peur qu'il a failli se faire mal, je perds le contrôle et je dis « Mais faut pas faire ça, tu vas te faire mal !» Et donc voilà, totalement ce qu'il faut pas faire. Mais de toute façon, après, c'est que... Enfin, je vais pas me rendre malade pour ça, quoi. Je sais que dès que j'ai peur pour mon fils, je suis irrationnelle. Donc je le sais, je m'excuse. Mais faut pas non plus, ouais, se mettre trop de pression et dans le jugement et dans le jugement des autres méthodes d'éducation, etc. À part évidemment les violences d'éducation, les violences qui sont inaccessibles, mais faut pas être dans le jugement et je trouve ça un peu dur, quoi. Je sais plus, une fois je parlais de je sais pas quoi, un truc qui me semblait anodin en story, Et j'ai reçu beaucoup de trucs et je me suis dit, mais pourquoi on me juge sur ça? C'est un choix que j'ai fait de... C'était sur quoi? Putain, je me rappelle plus. Attends, si j'avais trouvé l'exemple, je pourrais mieux t'expliquer.
C'était pas les vaccins.
Oui, alors les vaccins, j'en parle plus. Moi, mon fils, je veux le vacciner. J'en parle plus. Du coup, j'en parle plus. Mon fils, il est tout petit, tout chétif. J'ai vu qu'il soit protégé. Et puis, en plus, je suis scientifique, je crois à la science. Mettez-lui. Surtout que la dose d'aluminium, évidemment, j'ai fait des recherches. La dose d'aluminium, c'est moins que dans une tablette de ce que tu peux ingérer dans une tablette de chocolat. Et mon fils, il mange déjà du chocolat. Donc, il a du d'aluminium. Et donc, très scientifique, donc les vaccins. Mais oui, il y a beaucoup d'anti-vax qui m'ont. Mais c'était pas des vaccins. Mais oui, les vaccins, effectivement, ça en fait partie, parce que, et du coup, j'en parle plus en story, parce que c'est mon choix, je veux qu'il soit vacciné, je trouve que c'est le mieux pour lui.
Moi, je suis ravi d'entendre, de t'entendre raconter que voilà, y a ce qu'on veut faire, il y a ce qu'on fait, et puis on fait de notre mieux avec notre amour et puis
On fait notre
avec ce qu'on
mieux
a, quoi.
et moi je sais que je me suis désabonnée de pas mal de comptes Insta de maternité un peu trop bienveillantes parce que ça mettait une pression et j'étais pas bien et je culpabilisais tout le temps. Donc après c'est pas mal pour avoir des conseils. J'ai des trucs, j'avais pas demandé à Jacqueline qui donne pas mal de conseils que je suis, qui de elle donne pas mal de conseils, de jeux, etc. Mais il y a aussi d'autres trucs qui sont un peu plus, comment dire, d'autres comptes qui sont un peu, bah, ils te mettent une pression un peu. Ils te mettent une pression et genre si tu fais pas comme ça, t'es un mauvais parent. Non, non.
Bah non, c'est que si tu fais pas comme ça, bah tu fais pas comme ça en fait. C'est tout.
Oui, ouais. Et puis en fait, il faut s'adapter à son enfant et peut-être que ton enfant a besoin plus d'un cadre ou de trucs comme ça. Donc on va, ouais, c'est comme tu dis. C'est exactement comme tu dis. Il y a ce qu'on veut faire, ce qu'on effraie dans un monde idéal avec un enfant parfait et la réalité qui vient te mettre une grosse
Et
gifle.
puis nos ressources, tu vois, nos ressources en nous, c'est.
Ouais.
Il y a
Exactement.
cette phrase qui dit avant j'avais des principes et maintenant j'ai des enfants, tu vois. Donc
Ah, mais elle est tellement
ça
vraie.
marche
Elle est
aussi.
tellement vraie.
Donc je pense qu'il faut savoir d'où on part et où on veut aller et se dit qu'on tend vers. Il y a Soline Boudvervessière du compte Soline S'éveiller qui a fait un post là-dessus où elle montre, où elle explique voilà, moi je tends vers une parentalité sans violence, je tends vers
Exactement.
l'écologie, je tends vers tout ça. Et à contrario, justement, tu as des petites cases à cocher parfaites, machin, quoi.
Exactement. Moi, c'est exactement ça. Je tends vers. D'ailleurs, moi, je suis en train d'écrire un livre là sur la grossesse justement, et je commence en disant ça. Je disais ah, quand je me voyais ma parentalité, j'imaginais ça. Et puis je me dis qu'est-ce que j'étais naïve. Qu'est-ce que j'imaginais la grossesse comme ci, comme ça, que ça serait pas, que je serais hyper bien habillée avec que des robes en taille empire. Qu'est-ce que j'étais
Ah
naïve!
ben oui, ben
Tu
non.
vas avoir des bas de contention, un gros jogging, une ceinture de maintien, tu auras perdu tes cheveux. Tu pèteras dès que bébé va bouger. Enfin, tu sais, ça, pas du tout le truc idéal. Donc, ouais, on te vend un peu du rêve des fois sur la maternité, mais après, c'est. Ce que je disais, moi, les 2 premiers mois, on n'arrêtait pas de dire ça avec le concubin. On disait que les 2 premiers mois, c'est le truc le plus cool et le plus dur qu'on ait fait.
Mais c'est ça, mais en fait, et c'est ces montagnes russes où d'une seconde à l'autre, tu passes d'un moment de béatitude à un moment où tu te sens comme la dernière des merdes.
Exactement, exactement. Où tu te dis, mais putain, avant, je me coiffais quand même.
Avant, quand j'avais des
Avant, ouais.
cheveux.
C'est ça.
Bah écoute, merci beaucoup Elodie. Je pense qu'on a bien fait le tour sur. On a parlé de beaucoup de sujets. Merci beaucoup.
Mais de rien.
J'espère qu'on pourra bientôt te retrouver sur les planches
Putain,
dans un
j'espère
théâtre.
aussi. Je fais des cauchemars. Je commence à faire des cauchemars où je me dis, putain, ils vont plus jamais rouvrir les théâtres et tout. Je vois des copains qui participent à des scènes ou qui vont en Espagne jouer, je les maudis. Enfin, je deviens quelqu'un de mauvais. Donc vraiment, faut que les théâtres ouvrent. Je deviens
Voilà.
jalouse et tout, enfin, le truc.
Roselyne, si tu passes par là,
Ah ouais.
c'est cadeau. Merci beaucoup, Elodie.
Merci beaucoup, Cédric.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarcat Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.